CQFD.
Voici à présent une maladie très peu connue et pourtant loin d'être rare. Cette maladie s'appelle la glossodynie, Adrien Zerbini.
Oui, la glossodynie, bien que négligée, porte différents noms. On parle du syndrome de la langue de feu ou encore du burning mouth syndrome en anglais.
La bouche qui brûle, a priori, ça dit finalement ce que ça dit. Et au niveau des symptômes, ça n'a pas l'air très marrant.
Alors on va le comprendre, c'est même pas marrant du tout, comme vous dites Stéphane. Et ceci grâce à l'un des médecins qui connaît bien cette pathologie. Et là encore, j'insiste sur le fait que c'est rare. C'est-à-dire qu'en préparant ce dossier, j'ai dû chercher pas mal avant de trouver un spécialiste des glossodynies.
Et vous l'avez trouvé ce spécialiste.
Oui, il est en face de vous, Stéphane.
Exactement, il s'appelle Carlos Madrid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin dentiste stomatologue, ancien chef du service de stomatologie et médecine dentaire de la Polyclinique Médicale Universitaire à Lausanne. On va commencer par le début, à savoir une définition. Cette glossodynie ou ce syndrome de la langue de feu, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une affection qu'on définira mieux si on ne se concentre pas que sur les brûlures buccales. En fait, ce sont des paresthésies, des perceptions sensorielles ou sensitives qui sont perturbées, dans lesquelles il y a des brûlures de la bouche qui peuvent affecter tous les territoires, le palais, la langue, les joues, les lèvres, même la gorge. Une sensation de sécheresse buccale qui est souvent pas explicable par le contexte buccal, c'est-à-dire qu'il y a de la salive dans la bouche, mais les gens ont la bouche très sèche. Et puis enfin, des perturbations gustatives qui peuvent aller de ne plus sentir le goût des aliments à avoir un mauvais goût permanent dans la bouche, amer ou métallique.
Et il n'y a pas de cause physiologique, c'est-à-dire qu'un médecin généraliste va regarder la bouche, va regarder la langue, il va rien voir du tout.
Absolument. Ce sont des douleurs qu'on appelle en latin cinémateria, on voit rien. Et c'est presque un des éléments du diagnostic, parce que les gens décrivent finalement une gêne souvent très perturbante pour leur qualité de vie. Mmh. Par contre, à l'examen clinique, le médecin ORL, le dermatologue ou le médecin interniste généraliste ne voit rien, et ça déconcerte à la fois le praticien et le patient.
Alors le patient, justement, vous avez rencontré une personne qui souffre de glossodynie, Adrien.
Oui, il s'appelle Michel Scheffer, il dirige une entreprise dans le domaine de la finance, et ça fait 4 ans qu'il vit avec ce syndrome. Michel Scheffer a accepté de témoigner pour qu'entre autres les personnes qui souffrent de cette pathologie soient informées, qu'elles ne se sentent pas seules au monde, parce que c'est l'un des problèmes avec cette pathologie. Je lui ai demandé comment ce syndrome de la langue de feu s'était manifesté chez lui.
Dans le courant du mois de novembre 2012, j'ai commencé à avoir des douleurs sur les bords de la langue, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Au début, je pensais que c'était simplement des aphtes.
Et puis après, donc c'est ce genre de douleur-là que ça fait, quoi, ça.
Oui, c'est une impression, c'est une douleur sur les côtés, une langue légèrement gonflée, et puis ça vous énerve, puis vous ne savez pas pourquoi vous avez ça. Puis comme c'était persistant, alors en février 2013, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille, qui elle-même m'a dirigé auprès d'un docteur spécialisé.
Effectivement, dans cette maladie, il paraît qu'il y a pas mal de ce qu'on appelle de l'errance thérapeutique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on a.
Ouais.
Donc vous avez eu, entre guillemets, eu la chance, si on peut parler de chance, que votre médecin de famille directement vous oriente vers quelqu'un qui connaisse la pathologie.
Non, parce que entre le moment où j'ai pris rendez-vous avec elle en février 2013 et le moment où j'ai obtenu le rendez-vous, donc entre février et juillet, ça faisait quand même 4-5 mois. Entre-temps, moi, j'ai pris encore d'autres dispositions. J'ai été voir un allergologue, j'ai été voir un otorhinolaryngologue. La première chose qu'il m'a dit, c'est que, monsieur Scheffer, je peux d'ores et déjà vous dire que ce que vous avez là, ce n'est déjà pas un cancer, donc c'est quand même rassurant. Ensuite, j'ai été donc faire des examens d'analyse de ma salive pour savoir si cette salive avait un caractère
acide,
irritant ou comme ça. Alors voilà un petit peu
le parcours.
Le début du parcours avant mon premier rendez-vous donc chez le docteur au CHUV début juillet 2013. Et suite à ces quelques rendez-vous, deux, trois rendez-vous, c'est à ce moment-là que le docteur m'a posé le diagnostic en me disant que je souffrais donc d'une glossodynie. On dit aussi, on parle aussi du syndrome de la langue qui brûle. Donc j'ai commencé un traitement médicamenteux, principalement par des psychotropes.
Donc les benzodiazépines.
De la benzodiazépine, de l'amitriptyline. Et le docteur m'a aussi informé qu'il s'agira de faire preuve de beaucoup de patience et d'abnégation. Donc ça, il a fallu pour moi l'accepter et l'intégrer dans ma vie quotidienne.
D'accord. Et donc vous prenez, vous commencez à prendre ces molécules, donc benzodiazépines, donc des molécules qu'on utilise souvent dans les dépressions, hein, c'est juste?
Tout à fait, oui.
Et vous voyez une amélioration dans votre état de santé?
Effectivement, en termes de douleur ou de bien-être, c'est aussi des anxiolytiques, mm-hmm. antidépresseurs, anxiolytiques, antidouleurs et même somnifères. Parce que ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne qualité de sommeil. Parce que pendant la nuit, le cerveau, lui, il travaille et il fait le ménage. Et c'est très important d'avoir une très bonne qualité de sommeil. Si vous n'avez pas ça, quand vous vous réveillez, eh ben, vous vous retrouvez avec la même douleur le matin.
Ouais, alors ça, c'est peut-être quelque chose dont on n'a pas pris la mesure, c'est que vivre avec ces douleurs, parce qu'on peut se dire, bon, bah, quand on a un aft, c'est pas terrible, on peut supporter la douleur, mais cette douleur, elle finit par envahir le quotidien.
Mais absolument, elle prend une importance énorme. C'est gênant parce que votre langue, elle est dans votre bouche. Vous utilisez votre bouche pour parler, pour boire, pour manger. Cet organe qu'est la langue se trouve aussi proche du cerveau. C'est à l'intérieur de votre visage, votre image à l'extérieur, elle n'est pas très bonne. Quoi. Vous vous sentez déjà mal à l'aise, pas bien psychologiquement. Donc on a plutôt tendance à se replier sur soi-même et puis à avoir de moins en moins de relations sociales. Hein.
Si j'ai bien compris, la douleur augmente au fil des heures. Donc en fait, le soir, le moment où on voit des amis généralement, voilà. C'est le moment le plus pénible pour quelqu'un qui souffre de glossodynie.
Tout à fait. Donc cette douleur, elle progresse au fil des heures de la journée ainsi qu'au fil des jours de la semaine. Pour moi, c'était surtout en fin de semaine, jeudi, vendredi soir, où j'ai eu des moments tellement pénibles. Je me suis même mis à pleurer tellement que la langue était douloureuse ou brûlait.
Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez pris ces médicaments, ces benzodiazépines, ça vous a soulagé, mais ça ne vous a pas délivré de cette pathologie. Et vous avez suivi un parcours thérapeutique invraisemblable, une sorte de parcours du combattant.
Donc les effets secondaires de ces psychotropes, c'est que ça vous fatigue beaucoup. Donc moi, disons, depuis maintenant ce printemps, j'ai réduit mon temps de travail, donc je suis à 50% jusqu'à la fin de cette année. Ce qu'il me faut, c'est vraiment du repos. Donc moi, vers midi, 1h de l'après-midi, moi je suis cuit. Donc je rentre à la maison, je me repose. C'est le premier effet. Et puis ce manque de tonus, donc vous perdez de la vitalité.
Et vous faites du sport, hein. Vous êtes vous êtes pas abattu, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de vélo non. Et tout pour essayer de compenser.
Tout à fait. Le vélo est peut-être pas une activité, je dirais, relaxante parce qu'on développe de l'énergie, etc. Mais pour mon moral, c'est extrêmement important parce que je développe des endorphines, un peu d'adrénaline quand même, un bien-être. Ma forme physique était vraiment top. Il me fallait ça pour me sortir, pour un peu exorciser cette douleur.
Et alors, au niveau thérapeutique, vous avez essayé différentes choses. Est-ce qu'il y a eu quand même des choses qui ont marché mieux que d'autres?
Alors, au niveau thérapeutique même, je pense que le traitement qu'on m'a donné dès le départ était le bon, il était juste. Mais ce traitement médicamenteux ne suffisait pas. Début 2015... Je me suis rendu à l'hôpital cantonal universitaire de Zurich. Il y a une division qui est spécialisée pour les douleurs à la bouche. On m'a confectionné des gouttières.
Donc c'est une sorte de coque qu'on met sur les dents. Hein.
Qui recouvre les dents, le palais, les gencives. Parce que j'avais quand même pris une mauvaise habitude. C'était celle de un petit peu mastiquer ma langue. Et puis eux, ils m'ont dit, il faut absolument que vous laissez votre langue tranquille.
Avec cette gouttière, vous avez quand même vécu une rémission. Hein.
Absolument. Carrément, le lendemain, les douleurs, par enchantement ou par miracle, ont disparu. Je ne me suis pas trop réjoui trop tôt. Mais quand même, après 3 semaines, là, je commençais vraiment à
vous dire que vous étiez sorti d'affaires.
J'étais sorti d'affaires. J'avais mes ordonnances concernant ces médicaments qui se terminaient. J'ai réduit les doses. Il y a une période de sevrage à respecter. Et puis là, j'étais vraiment en super forme. Mais malheureusement, à partir de début de cette année, les douleurs ont repris. Puis là, j'ai eu un gros coup au moral. Cette douleur, c'est quand même une maladie psychosomatique. et puis si elle augmente, elle va avoir un impact sur votre morale. Donc c'est un peu une spirale dans laquelle il faut éviter de tomber, il faut être tenace, il faut être pugnace.
Michel Schaeffer, il y a encore une chose que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, c'est à quoi vous attribuez votre maladie. Vous avez mentionné le fait que c'était une maladie psychosomatique.
Oui.
À quoi est-ce que vous l'attribuez ?
Alors, je pense qu'elle est l'aboutissement ou la conséquence d'un parcours de vie. Donc là, on parle du mien, mais je pense que pour d'autres personnes, ça doit être pareil. Elle vient initialement d'un traumatisme, ça peut être psychologique ou physique. Pour moi, c'était durant mon adolescence. Et puis après, ben, il y a le parcours de la vie.
Et vous avez l'impression que votre corps, à un moment, a développé cette pathologie, un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Exactement. On m'a dit qu'effectivement, votre corps, il supporte un certain niveau, puis à un moment donné, par une douleur...
Ça bascule.
Ça bascule. Et pour moi, ça a basculé dans le courant du mois de novembre 2012.
Le témoignage de Michel Schaeffer, on comprend clairement que ce syndrome de la langue de feu ou de la langue qui brûle, évidemment c'est pas un syndrome qui peut conduire à la mort, hein, donc il n'engage pas un pronostic vital, mais il peut évidemment énormément altérer le quotidien. C'est ce que vous confirmez aussi, Carlos Madrid, je rappelle que vous êtes médecin dentiste stomatologue.
Oui, absolument. Oui, le témoignage qu'on vient d'entendre est très intéressant parce que il montre à la fois des côtés extrêmement communs à tous les patients, par exemple la progression de la douleur au cours de la journée, le gonflement de la langue qui est une de ces formes de paresthésie non douloureuse que les patients ressentent, rugosité des dents, volume de la langue qui a augmenté, joues qui sont plus exactement à la même place, etc. Les altérations gustatives dont on a parlé avec l'impression d'acidité qui fait rechercher des problèmes gastriques ou des modifications salivaires. Et puis d'autre côté, on voit aussi l'impact chez ce patient très fort de la douleur dont il dit très bien à la fin de l'interview à quel point il le met en lien avec des souffrances qui viennent de d'autres éléments dans sa vie personnelle.
Oui, le traumatisme vécu durant l'enfance ou l'adolescence.
Ouais, c'est pas je dirais l'archétype du patient. Je crois qu'il faut permettre à de très nombreux patients de rentrer dans ce syndrome douloureux chronique de la bouche qui est le syndrome des brûlures buccales sans que pour autant la démarche psychanalytique doive être systématiquement menée pour la bonne et simple raison que les études épidémiologiques qui ont été bien menées ne permettent pas de définir un profil ou des facteurs de risque psychologique pour cette maladie. La plupart des patients ont une histoire tout à fait entre guillemets banale de vie. Peut-être aussi il faut distinguer, et c'est toujours difficile dans le domaine de la douleur chronique, les effets de la douleur chronique qui peut être dépressogène par rapport à ce qu'elle soit causée par un phénomène anxio-dépressif comme c'est sous-jacent par exemple parfois.
Donc dans le fond on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment les origines de cette maladie. Hein,
alors il y a de très nombreuses expérimentations qui ont été menées et qui font qu'aujourd'hui l'hypothèse la plus vraisemblable c'est quand même celle de perturbations neuropathiques, c'est-à-dire d'altération des fibres nerveuses, sensitives et parfois sensorielles, qui viennent se distribuer à l'intérieur de la muqueuse de la bouche, mais on en trouve aussi parfois des manifestations à l'intérieur des muqueuses vulvo-vaginales, donc dans les parties génitales, et puis les dermatologues décrivent un syndrome des pieds brûlés qui s'apparente beaucoup à ce qu'on observe dans la bouche. Donc ce sont des petites fibres terminales, sensitives ou sensorielles, qui dysfonctionnent, et aujourd'hui on pense que ces altérations, qui ont été bien mises en évidence à la fois sur le plan microscopique, histologique et sur le plan électrophysiologique, que ces perturbations sont liées à des modifications hormonales, en particulier des modifications des corticostéroïdes qui sont régulés par des corticostéroïdes sexuels et dont les effecteurs sont des corticostéroïdes neuroactifs.
Vous parlez de modifications neuronales, hormonales. Mm-hmm. C'est vrai que là où, si j'ai bien compris, la littérature montre que le cas de notre témoin n'est pas typique, c'est que majoritairement ce sont des femmes qui souffrent de glossodynie et majoritairement après la ménopause.
Ah oui, exactement. Les données statistiques, c'est entre un homme pour 3 femmes et un homme pour 16 femmes. Donc les femmes sont de toute façon très prédominantes dans cet échantillon. Et si on veut avoir une idée quand même de l'importance de cette maladie, selon les statistiques encore, c'est entre 8 et 12% des femmes ménopausées qui sont atteintes par cette maladie.
C'est énorme.
Donc c'est énorme. Mmh. Voilà. Alors effectivement, on sur cette base-là et dès les années 60, on a envisagé, du siècle dernier, on a envisagé la possibilité qu'il y ait un lien entre les modifications hormonales liées à la ménopause et l'apparition de cette maladie. On a même fait des traitements progestatifs, œstrogéniques, pour traiter cette maladie, avec des résultats qui étaient trop mitigés pour qu'ils soient poursuivis.
Il y a une chose qui est curieuse, c'est que si ça touche tant de monde, pourquoi la maladie est si mal connue? Pourquoi il y a une telle errance? Ça veut dire beaucoup de patientes, puisque c'est majoritairement des femmes, vont chez leur médecin généraliste qui ne sait pas ce qu'elles ont et qui les oriente mal, en fait.
Bah d'abord parce que, je dirais, à tout seigneur, tout odeur, parce que je pense qu'elle a été peu ou pas enseignée pendant très longtemps. C'est pas une maladie qui tue, c'est pas une maladie neurodégénérative grave. Vous l'avez vu, on peut vivre très longtemps. On parlait même de rémission naturelle au bout de 15 ans dans certaines publications. Aïe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont laissé l'arme au pied 15 années la maladie évoluer jusqu'à attendre qu'elle disparaisse d'elle-même. Donc c'est clair que ça n'est pas une maladie qui a été, je dirais, prise au sérieux, qu'elle est un peu orpheline comme beaucoup de syndromes douloureux chroniques et que les patients ont été incités à vivre avec ça. Aujourd'hui, je pense qu'elle est mieux connue. On a fait un travail d'information sur cette maladie. Elle est repérée plus tôt. Les médecins internistes la connaissent mieux. Les spécialistes ORL également. Et je pense que elle sera diagnostiquée plus vite et probablement prise en charge plus vite.
Carlos Madrid, y a-t-il des thérapies efficaces pour prendre en charge ce syndrome de la langue de feu? Michel nous parlait des antidépresseurs anxiolytiques, somnifères, une espèce de cocktail qu'il prenait.
Alors il le prend, et toujours, d'après ce que j'ai compris de l'interview, et je crois qu'il le prend à juste titre, puisqu'il dit quand même que quand il a eu des périodes où il a presque spontanément diminué ou arrêté les doses, il a eu une récidive assez importante des douleurs, et c'est une expérience que les patients vivent, sauf lorsque au bout du traitement on arrive à leur faire progressivement, avec vraiment, comme il l'a dit, une stratégie de sevrage, arrêter ces médicaments. Ils sont efficaces, ils ont été testés dans cette indication, dans des essais randomisés contrôlés. Donc on a des preuves scientifiques de très bon niveau pour dire que les benzodiazépines GABAergiques, pas toutes les benzodiazépines, mais celles qui ont cette activité GABAergique, sont capables d'agir sur cette maladie. Et puis aussi l'amitriptyline, non pas pour son activité antidépressive, parce que dans les doses auxquelles on utilise, sont des toutes petites doses, on n'a pas d'activité antidépressive, mais beaucoup plus pour leur activité neurotrophique qui a été démontrée expérimentalement. Maintenant, le 18 novembre 2016, la Cochrane Collaboration, donc l'organe
Cochrane, on en parle souvent ici.
Voilà, la Cochrane, donc qui est l'organe, disons, de vérification des stratégies de prise en charge médicale indépendant, a publié sa troisième édition sur le Burning Mouth. Et ils ont colligé 1121 publications pour faire une revue systématique sans pouvoir établir une méta-analyse parce que, voilà, la recherche n'est pas de suffisamment bonne qualité ni de suffisamment nombreuse en termes de taille des échantillons pour qu'on valide pleinement les stratégies thérapeutiques.
Michel évoquait aussi cette coque, elle est à Zurich, chez les spécialistes, une coque qu'on lui a donc placée sur les dents, dans le palais, sur les gencives, pour laisser la langue tranquille. Ça semble-t-il a eu un effet pendant un certain temps, puis voilà, malheureusement...
Oui. Beaucoup de thérapeutiques antalgiques qui interviennent finalement sur le terrain de façon locale ont un effet positif, transitoire, et puis il faut en profiter. Les barrières physiques, ces coques qui ont été testées à Zurich avec efficacité pendant un certain temps, sont reconnues comme une stratégie qui a un certain pouvoir d'action pendant quelques mois. L'acupuncture a été utilisée aussi avec efficacité, et puis d'autres molécules que celles que vous avez citées, par exemple l'acide alpha-lipoïque a été tenter, mais pas avec des résultats qui sont suffisamment convaincants.
Est-ce que peut-être un jour, Carlos Matrin, on va mettre le doigt sur vraiment le principe, la source, la cause de cette maladie que finalement on ne comprend pas parfaitement bien et qu'on peut imaginer trouver la molécule ou la manière d'aborder la chose qui globalement ferait disparaître cette pathologie?
Je crois que oui, je reste persuadé que à ce jour, un grand nombre de patients bénéficient déjà, avec les prises en charge existantes, d'une très nette amélioration de leur qualité de vie. Mais c'est vrai qu'il y a des patients qui sont non répondants au traitement qu'on leur propose et qu'il y a des patients qui ont encore un parcours très anxiogène parce que vous avez parlé d'errance thérapeutique, moi j'ai tendance à parler de vagabondage médical. Ils vont à l'aventure chercher, comme on l'a vu, des examens complémentaires, ils sont mal orientés et je pense que si on résolvait finalement plus précocement ces problèmes de prise en charge en identifiant la maladie très tôt, on aurait une prise en charge plus efficace.
La langue de feu, la langue qui brûle, la glossodynie. Merci beaucoup Carlos Matrin d'être venu aujourd'hui dans CQFD, médecin, dentiste, stomatologue, ancien chef du service de stomatologie et médecine dentaire à la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne.
CQFD sur la première.